Bonjour, vous êtes sur France Culture. Tout à l'heure, dans la grande table d'été, nous parlerons d'autobiographie en bande dessinée, juste avant de faire le portrait de l'écrivain Joseph O'Connor. Il est 12h30. L'heure d'écouter le journal de la rédaction, présenté par Antoine Maret. Bonjour.
Bonjour Maïlys, bonjour à tous. Cécile Duflot, candidate à la primaire écologiste, c'est une information France Culture. Elle l'annoncera officiellement ce week-end. Après Cannes, la justice se penche sur l'interdiction du burkini à Villeneuve-Loubet. L'audience du tribunal administratif de Nice a eu lieu ce matin. La France débat autour du burkini, l'Allemagne autour de la burqa. Le ministre allemand de l'Intérieur propose une interdiction du voile intégral. À la fin de cette édition, nous nous intéresserons à une photo qui émeut le monde entier, celle d'un petit garçon de 5 ans qui a survécu au bombardement d'Alep en Syrie, une photo qui est en train de devenir un symbole. Elle avait déjà fait part de son envie de se présenter, mais elle hésitait. Elle a désormais fait son choix. Elle va y aller. Cécile Duflot est candidate à la primaire écologiste. C'est une information France Culture. Bonjour Christine Monclar.
Bonjour Antoine.
Cécile Duflot doit annoncer officiellement sa candidature ce week-end.
Oui, tout est prêt. Le mail qui partira pour les militants, l'interview dans le journal du dimanche et puis une matinale radio lundi. Elle sortira donc, notons-le, du bois le même jour que son ancien collègue ministre Arnaud Montebourg, qui lui aussi se veut une alternative à gauche de Hollande. Cécile Duflot se prépare depuis sa sortie du gouvernement à ce scénario il y a 2 ans et demi. Elle a d'abord constitué un comité pseudo-secret baptisé Vital Michalon, du nom d'un militant écolo mort en manifestation en 1977. Comité qui s'active pour faire entendre la petite musique de son retour. Cécile Duflot envoie d'abord un pavé dans la mare à l'été 2014 avec un livre assassin sur Hollande et Valls. Puis elle choisit la discrétion médiatique pour se donner de la hauteur et elle revient l'an dernier avec une nouvelle théorie, la déminorisation, ou comment les écolos doivent, selon elle et peut-être grâce à elle, cesser de se voir en éternel perdant. Sa candidature se précise peu à peu, mais toujours entourée de mystères et de circonvolutions. Il lui faut aussi alors respecter l'hypothèse Nicolas Hulot qui fait vraiment rêver les écolos. Mais quand celui-ci renonce au printemps dernier, les ambitions se dévoilent. 2 candidats se déclarent spontanément, les eurodéputés Yannick Jadot et Michel Rivasi. Et puis Cécile Duflot qui accepte donc à son tour de participer à la compétition interne, chose qu'elle redoutait jusque-là comme risquant d'être trop fratricide et aussi parce qu'elle se sent légitime. La députée de Paris souffre toujours d'un déficit de popularité auprès des Français, mais elle reste la plus influente au sein des Verts, ce qui ne lui garantit en rien pour autant une victoire. Les précédentes primaires chez les Verts ont toujours réservé des surprises. Et puis surtout, quel que soit le gagnant, eh bien une candidature écolo en 2017 reste assez hypothétique. Europe Écologie Les Verts est un mouvement financièrement ruiné, politiquement fragile, qui n'a plus que 5000 adhérents, qui a perdu énormément d'élus locaux aux dernières élections. Le premier pari sera donc de réunir les 500 parrainages nécessaires.
Merci à vous, Christine Monclar. Et voilà maintenant une question qui intéresse sans doute Cécile Duflot et les écologistes en général, la sécheresse qui frappe une trentaine de départements de l'ouest et du sud de la France. Les agriculteurs s'en seraient bien passés après un hiver trop doux et un printemps très pluvieux. Voilà donc maintenant qu'ils doivent faire face à des restrictions d'eau et les conséquences sont lourdes pour Lux Messer qui est vice-président de la FNSEA.
Ça va mettre en difficulté certains contrats qu'on peut avoir avec notamment des productions de légumes, hein, puisque aujourd'hui, si on n'a pas d'eau, c'est le petit pois qui va pas être rond, c'est des fils dans les haricots. Voilà, c'est tout des choses qui paraissent toutes simples, mais pour un agriculteur, derrière, c'est forcément de la perte nette. À la fin de l'année, les comptes vont être dans le rouge pour beaucoup d'agriculteurs, et donc avec des conséquences sur l'ensemble de nos territoires français, avec la sécheresse, hein, qui arrive depuis le mois de juillet, c'est essentiellement le sud qui est touché. On peut citer aussi toute la partie ouest, hein, sud-ouest, mais également beaucoup de départements qui ne sont pas en arrêté sécheresse. Les plantes qui ont eu un excès d'eau n'ont pas eu un développement des racines, puisqu'ils se sont contentés de ce qui tombait au printemps. Et donc forcément aujourd'hui les plantes, même dans certains départements du nord de la France aujourd'hui, réclament de l'eau rapidement. Et puis on est déjà en train de commencer les premiers semis pour l'année prochaine, des semis de colza, des semis de plantes intermédiaires pour l'hiver. Et donc là aussi, ces graines vont avoir besoin d'eau rapidement.
Lux Messer au micro de Willy Moreau. Les suites du feuilleton de l'été, faut-il autoriser ou non le burkini sur les plages? Après Cannes, la justice se penche sur son interdiction décidée par le maire de Villeneuve-Loubet. L'audience du tribunal administratif de Nice a eu lieu ce matin. Bonjour Lisa Amélia.
Bonjour.
Vous êtes reporter à France Bleu Azur, vous avez assisté à l'audience de ce matin.
Oui, et ce matin, la Ligue des droits de l'homme et le collectif contre l'islamophobie se sont employés à contrer chaque argument de la mairie. La laïcité, d'abord. L'avocat de la LDH, la Ligue des droits de l'homme, rappelle que la loi de 1905 s'applique dans les services publics, pas les lieux publics comme la rue ou la plage. Et le burkini n'est pas une burqa qui, elle, est interdite. Non, le burkini, c'est une sorte de combinaison de plongée plus un voile. Pour la LDH, interdire le burkini sur la plage revient à interdire le voile dans la rue. Ensuite, l'ordre public. D'après toutes les mairies qui ont pris un arrêté anti-burkini, ce vêtement exacerbe les tensions, pourrait déclencher des bagarres. Réponse des requérants, la mairie de Villeneuve-Loubet n'apporte aucune preuve que le burkini provoquerait des heurts incontrôlables, que la police municipale serait complètement dépassée et donc qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Troisième argument, la sécurité. En cas de noyade, le burkini, comme tout vêtement imbibé d'eau, alourdit la personne qui le porte, ce qui compliquerait la tâche des sauveteurs. Le collectif contre l'islamophobie balaie cette affirmation. Les burkinis sont faits avec la même matière que les maillots de bain. La mairie évoque enfin les bonnes mœurs, ce qui fait sourire les avocats de la partie adverse. Avant, on interdisait aux femmes de se dénuder. Désormais, on leur en donne l'ordre. Reste le contexte, l'attentat de Nice. L'avocat de la Ligue des droits de l'homme a exhorter les juges de s'en tenir au droit, d'oublier la politique, la polémique. C'est le droit qui doit dicter sa loi aux patients, lance-t-il en conclusion de sa plaidoirie, pas l'inverse. Les juges rendront leur décision en début de semaine prochaine.
Merci à vous, Lisa Amélia de France Bleu Azur. Et alors que la France s'interroge sur l'interdiction du burkini, l'Allemagne, elle, en est toujours à débattre autour de l'interdiction du voile intégral. Le ministre allemand de l'Intérieur a rencontré aujourd'hui ses homologues conservateurs des Länder. Ensemble, ils ont envisagé différents moyens d'améliorer la sécurité dans le pays après la série d'attaques en juillet, dont certaines revendiquées par l'État islamique. Bonjour Cyril Sauvageau.
Bonjour.
Vous êtes en direct pour nous depuis Berlin et parmi ces moyens, donc, le ministre de l'Intérieur allemand propose une interdiction du voile intégral.
Oui, et le sujet n'était pas à l'ordre du jour en Allemagne il y a encore quelques semaines, hein, mais la crise des réfugiés et surtout les attentats du mois de juillet ont changé la donne. En pleine campagne électorale, avec deux scrutins régionaux qui arrivent dans les prochaines semaines, l'intégration des musulmans s'impose désormais comme un thème politique majeur. La CDU, le parti d'Angela Merkel, qui est menacée à droite par les populistes de l'AfD, cherche à reprendre la main, d'où cette proposition avancée d'abord par quelques membres du parti et reprise ce matin par le ministre de l'Intérieur. Avec une nuance importante, Thomas de Maizière évoque une interdiction partielle et non pas totale de la burqa. Le voile intégral pourrait être proscrit dans les écoles, à l'université, au volant des voitures, devant les tribunaux ou dans les administrations. Une solution de compromis donc, car le sujet ne fait pas l'unanimité dans la société allemande et encore moins dans la classe politique. La grande coalition est divisée. Les sociaux-démocrates du SPD estiment qu'il y a plus urgent dans la lutte contre la radicalisation et que la burqa n'a rien à voir avec la sécurité intérieure. Angela Merkel n'a pas pris position officiellement. Enfin, une interdiction totale paraît difficilement envisageable au regard de la constitution allemande qui garantit avant tout la liberté de culte.
Merci à vous Cyril Sauvageau en direct de Berlin. Les suites de la tentative du coup d'État en Turquie. 8 militaires turcs demandent l'asile en Grèce. Ils ont fui leur pays quelques heures après le putsch raté du mois dernier. Ankara demande leur extradition. C'est donc un casse-tête diplomatique qui commence pour Athènes. Sur place, la correspondance d'Angélique Coronis.
Journée cruciale aujourd'hui pour les 8 officiers turcs toujours incarcérés dans la banlieue d'Athènes. D'un côté, les services d'asile vont commencer leurs entretiens avec eux pour évaluer si oui ou non ils doivent bénéficier d'un asile politique. De l'autre, le parquet doit de son côté étudier la demande d'extradition de la Turquie qui les soupçonne d'avoir participé au putsch raté. Une complication diplomatique dont le gouvernement de Tsipras se serait bien passé. Les 8 militaires, 2 commandants, 4 capitaines et 2 sergents se présenteront un par un jusqu'au 30 août devant les services de demande d'asile. Selon leur avocate, ils invoquent des risques pour leur sécurité, leur vie et celle de leur famille en cas de renvoi en Turquie où le gouvernement mène une purge massive dans l'armée, la fonction publique, les médias et le secteur privé. Le tout sur fond de menaces de rétablissement de la peine de mort. Pour l'instant, le gouvernement grec a refusé de prendre position. Il a fermement condamné le coup d'État manqué en juillet dernier, mais s'est joint aux inquiétudes européennes quant aux dérives autoritaires du président turc Tayyip Erdogan. Athènes entretient des relations en dents de scie avec sa voisine. De profonds désaccords opposent les deux pays sur la question de la souveraineté en mer Égée, sur le contrôle de l'espace aérien et sur la douloureuse question chypriote. Mais avant tout, ce que redoute Athènes en ce moment, c'est une nouvelle arrivée massive de migrants à partir des côtes turques. Pour l'instant, la Grèce essaie de gagner du temps. Les services d'asile ne donneront pas de réponse avant au moins la mi-septembre.
En Crimée, des manœuvres militaires impliquant des forces terrestres et navales russes sont en cours. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse russe citant le ministère de la Défense. Ces exercices consistent à former les troupes et à des tâches de logistique, ajoute l'agence. Ils interviennent dans un contexte de tension renouvelée entre Kiev et Moscou. L'ONU avait toujours nié son implication, mais près de 6 ans après le début de l'épidémie de choléra en Haïti, les Nations Unies reconnaissent enfin avoir joué un rôle dans l'apparition de la maladie, maladie qui a fait près de 10 000 morts dans le pays. C'est une victoire pour les victimes et leurs familles, même s'il leur sera difficile d'obtenir réparation. À New York, les précisions de Charlotte Alix.
Pour les experts médicaux, cela ne fait aucun doute. Le choléra a été importé en Haïti en 2010 par des casques bleus népalais dont les latrines se déversaient dans une rivière. Avant 2010, le dernier cas de choléra dans le pays remontait à 1960. Malgré les preuves, l'ONU avait toujours nié son implication jusqu'à hier et cette déclaration d'un porte-parole reconnaissant l'implication des Nations Unies dans le déclenchement de l'épidémie qui continue de sévir. Révélé par le New York Times, cet aveu inattendu survient alors qu'un rapport interne rédigé par un professeur de droit reconnu fustige de manière cinglante la réaction de l'ONU vis-à-vis de l'épidémie de choléra, une réaction qualifiée de moralement inadmissible, légalement indéfendable et politiquement suicidaire. Pour des millions d'Haïtiens, et en particulier les centaines de milliers de personnes touchées par la maladie, ce changement de cap est une victoire, mais une victoire en demi-teinte, car si l'ONU reconnaît son implication, elle ne va pas jusqu'à reconnaître être à l'origine de l'épidémie et continue de brandir son immunité diplomatique pour échapper aux poursuites et aux demande de réparation. Depuis 2011, plusieurs plaintes ont été déposées à New York par les familles de victimes qui réclament 40 milliards de dollars de dédommagement, mais l'ONU a toujours refusé de se présenter au tribunal.
C'est une photo qui fait la une de Libération ce matin, celle d'un petit garçon ensanglanté, prostré et couvert de poussière. Omran a 5 ans, il a survécu au bombardement d'Alep en Syrie et son regard vide interpelle la communauté internationale. Sur les réseaux sociaux, cette image a été partagée des millions de fois et aujourd'hui Omran est en train de devenir un symbole, Marion Aquilina.
La photo a fait la une de nombreux titres internationaux ce matin. The Guardian, El País ou encore South China Morning Post. Omran apparaît alors comme le symbole de la détresse du peuple syrien, exténué par la guerre. Un peu comme l'avait été Aylan il y a presque un an pour les réfugiés syriens. Aylan, c'est le garçon de 3 ans, mort noyé en mer Égée et échoué sur une plage turque. André Gunther est maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales. Il était l'invité de la rédaction de France Info ce matin et il explique que les images d'enfants victimes de la guerre peuvent aider les gens à prendre conscience du drame vécu par les civils dans les conflits armés.
C'est un cas qui est répétitif dans l'histoire médiatique, au moins depuis 1972, c'est-à-dire la célèbre image de la petite Vietnamienne qui s'enfuit sous le napalm. Et comme dans les autres cas que nous connaissons, le petit Aylan, qui est évidemment l'image de référence la plus proche, on a la focalisation sur le personnage de l'enfant, c'est la victime par excellence. Ce qui est important, c'est le fait de pouvoir faire d'une image un symbole. C'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui à Omran, c'est-à-dire que cette image qui raconte une histoire, c'est un outil très fort pour faire passer un message politique, un message d'indignation, que tout le monde peut s'approprier, transformer, commenter, détourner, et pas seulement des documents réalistes, parce que voilà, des documents sur le drame des migrants ou la guerre de Syrie, on en a des milliers, on en a tous les jours, et ces images-là ne produisent pas le même effet.
Sur la vidéo visionnée des millions de fois, on voit Omran couvert de poussière et de sang dans une ambulance. Sous le choc, il ne pleure pas, il est silencieux. Il a ensuite été admis à l'hôpital et a été soigné pour une blessure à la tête.
Un séisme de magnitude 7,4 a secoué le sud de l'océan Atlantique ce matin. L'Institut américain de géologie précise que l'épicentre était situé à 316 km d'île, abritant des bases de recherche britanniques sur l'Antarctique. Aucune alerte au tsunami n'a été émise. Vous l'avez sans doute remarqué, si vous habitez le centre, l'Île-de-France ou le nord, le temps se dégrade aujourd'hui sur ces régions, ce qui donne de la pluie. Ailleurs, c'est le soleil qui domine très largement. Température en nette baisse, 18 au Havre, 21 à Paris, 22 à Besançon, 27 à Montpellier. C'est la fin de cette édition préparée avec Yacine Bouzard. J'aurai le plaisir de vous représenter le prochain journal à 18h.